chers auditeurs de Radio Courtoisie, nous souhaitons la bienvenue à tous les auditeurs qui nous rejoignent en cette deuxième partie du Libre Journal des Amitiés Françaises. Je rappelle que nous avons la chance d'avoir au standard Laurent pour reprendre tous vos messages, les questions que vous souhaitez poser à notre invité. Je rappelle le téléphone de la radio 01 46 51 00 85 01 46 51 0085, par courrier électronique courtoisie@rc.fr, courtoisie@rc.fr. Nous abordons donc maintenant la deuxième partie de cette émission. Nous connaissons tous le cantique, le fameux cantique de Jean Racine. Pardonnez-moi d'utiliser cet anglicisme, mais ce cantique est quasiment en l'été, en tout cas il y a quelques années maintenant, je ne sais pas, à la première place du hit parade des musiques et chants célébrés lors des mariages, ce fameux cantique de Jean Racine. Et ce soir, nous allons d'ailleurs l'écouter, car cette émission sera un peu musicale. Étonnamment, autant ce cantique de Jean Racine plaît beaucoup, puisqu'il revient régulièrement, justement, dans ces cérémonies, eh bien, son auteur est totalement méconnu. Son auteur, c'est Mel Bonis, et je pense, comme moi d'ailleurs, lorsque j'ai préparé cette émission, eh bien, Mel Bonis n'évoque rien pour la majorité d'entre nous, alors que Mel Bonis, c'est le nom d'une compositrice française de grand talent, qui fut parfois d'ailleurs, nous allons le voir, dans la douleur, dans l'épreuve, s'affirmer et mener sa vie personnelle et professionnelle de femme compositeur en dépit des préjugés et des conventions sociales de son époque qui, dans son cas, furent, nous allons le voir, très pesantes. À sa mort, en 1937, eh bien, Mel Bonis espère que ses compositions seront un jour redécouvertes, en y retrouvant, ce sont ses termes d'ailleurs, en y retrouvant à la fois la sensibilité d'une femme et l'énergie d'un homme. Ce soir, nous sommes heureux de contribuer, modestement certes, mais contribuer quand même, à la redécouverte de Mel Bonis grâce à une belle biographie qui lui est consacrée et qui vient de paraître, d'être publié aux éditions Éric Bonnier. Le titre de cette biographie, c'est « Mel Bonis, un cœur en musique » par Alain de Savigny, que nous avons le plaisir de recevoir ce soir. Alain de Savigny, bonsoir.
Bonsoir.
Eh bien, merci beaucoup d'être avec nous en direct pour cette émission consacrée donc à cette compositrice. Alors, on dit compositrice ou compositeur ?
On peut dire les deux, mais avant on disait une femme compositeur et maintenant on met partout compositrice.
On dit compositrice, ouais. C'est plus court qu'une femme compositeur. Donc nous dirons compositrice. Donc nous sommes particulièrement heureux de vous recevoir pour cette nouvelle biographie après celle que vous aviez consacrée à Louise Carroll, la mère de l'automobile, et puis aussi à l'épouse maréchal Lyautey, Inès de Bourgoin. Vous aviez aussi publié une biographie, La joie de l'âme, toujours aux éditions Éric Bonnier. Vous êtes un fidèle des éditions Éric Bonnier. Vous êtes aussi, nous allons le voir, un féru de ces femmes un peu méconnues et injustement oubliées que vous aimez remettre en valeur, et nous en sommes reconnaissants, parce que avec ce personnage de Mel Bonis, eh bien, vous nous faites redécouvrir une personne à la vie passionnante d'ailleurs, mais aussi une personne d'un très grand talent musical. Alors les auditeurs de Radio Courtoisie vous connaissent bien, puisque nous avons le plaisir de vous recevoir à plusieurs reprises. Je vous présente à nouveau. Vous êtes un ancien dirigeant d'entreprise multinationale. Vous êtes en quelque sorte reconverti dans l'histoire. Vous êtes auditeur en histoire ottomane. C'est un aussi de vos sujets de prédilection. En histoire ottomane au Collège de France. Vous avez d'ailleurs reçu en 2009 le prix Méditerranée, expansion, mention spéciale du jury pour ce livre, La sublime porte. Voilà. Et vous avez donc écrit donc de nombreux ouvrages. J'en ai cité l'un d'eux, des biographies que vous présentez d'ailleurs de manière personnelle. Hein, vous mettez vraiment à la place de la personne dont vous racontez l'histoire. Souhaitez-vous ajouter quelque chose à cette présentation, Alain de Savigny?
Bah écoutez, d'abord, merci beaucoup de me recevoir, effectivement, pour la troisième ou quatrième fois. Vous m'aviez fait rappeler les autres fois, et on peut peut-être le dire une seconde, que effectivement, c'est pas très classique pour un ancien dirigeant de grande entreprise de devenir historien. Mais quand j'ai pris ma retraite il y a une vingtaine d'années, j'ai pensé qu'on n'était pas obligé de faire la même chose toute sa vie. Et je voulais devenir... Donc j'ai refusé de continuer la vie professionnelle et les propositions qu'on me faisait. Et j'ai voulu devenir historien et m'en suis donné les moyens par 7 ou 8 ans de cours et de recherche au niveau master et doctorat, comme vous l'avez rappelé au Collège de France, au Langeau, en Sorbonne, un peu partout. Et donc je suis devenu historien, écrivain, conférencier... et même professeur dans une université qui était l'Institut catholique de Paris. Au début, j'ai écrit des romans historiques dans ma spécialité, je dirais universitaire, qui était l'Empire ottoman et la Méditerranée. Mais au bout de 5 de ces romans qui ont bien marché et qui ont eu des prix, comme vous l'avez rappelé, j'ai proposé à mon éditeur de ne pas lasser le lecteur et de changer de genre. Et je lui ai dit, on va faire un peu plus moderne. Aujourd'hui, c'est l'époque des femmes. On en voit partout et on en met partout. Et il y en a qui ont beaucoup de talent. Mais il y a aussi un certain nombre de femmes qui ont eu beaucoup de talent et qui ne sont pas connues parce qu'elles étaient encore à une époque où ces dames n'avaient le droit de ne rien dire et de ne rien faire. Et donc, j'ai voulu un peu réparer ces injustices. Et j'ai écrit maintenant, c'est mon 5e livre que je viens de publier dans ces personnes d'exception et méconnues, et chaque fois dans un monde assez différent. Voilà, c'est comme ça que je suis arrivé à Melbourne, si vous voulez.
Oui, vous avez...
Alors, le sujet, vous l'imaginez, c'est à chaque fois de trouver quelqu'un d'original qui, d'une part, ait fait quelque chose d'essentiel dans un monde particulier, mais d'autre part, ait aussi quelque chose à dire ou que l'auteur ait quelque chose à montrer sur le plan humain, relationnel, affection, amour, etc. Il faut que les gens apprennent en se distrayant, si vous voulez.
Alors justement, la question c'est comment avez-vous entendu parler de Mel Bonny pour qu'elle s'intègre justement dans cette série des femmes d'exception mais méconnues?
Ouais. Bah, c'est-à-dire que, disons, j'ai un certain nombre d'amis qui savent sur quoi je travaille et quand j'ai fini un livre, ils commencent déjà à me proposer des idées pour le livre suivant. C'est comme ça que, pour mon livre précédent qui était dans le monde automobile, c'est un de mes voisins et amis qui est Robert Panhard, le pape de l'automobile en France, qui m'a dit « Connaissez-vous Lewis Carroll ?» Silence autour de la table, personne ne connaissait, donc ça m'a intéressé. Et dans un groupe... un cercle historique distingué dont je fais partie, des amis m'ont dit « Attends, as-tu déjà entendu parler de Mel Bonny ?» Et évidemment, comme vous, je n'en avais pas entendu parler, comme 99% des gens aujourd'hui. Elle commence, et on va le voir tout à l'heure, elle commence à être connue maintenant des spécialistes et des mélomanes, mais moi je me suis dit que ce serait une bonne idée pour la faire mieux connaître dans le grand public de créer le livre que je viens de sortir.
Alors quelles sources avez-vous utilisées?
Alors j'ai utilisé les sources habituelles d'un historien, c'est-à-dire les recherches classiques ici ou là, et j'ai beaucoup travaillé aussi avec la présidente de l'association Mel Bonny, qui est l'arrière-petite-fille de Mel Bonny, qui avait chez elle tout un tas de documentation, de partitions, etc. Et donc j'ai pu collaborer avec elle sur ce sujet. Voilà.
Alors pourquoi pensiez-vous que Mel Bonny soit digne d'intérêt?
Je pense que c'est une femme qui est digne d'intérêt et que ce livre est digne d'intérêt parce que...
Certainement,
d'une part, c'est une... enfin, c'est quand même pas rien. Elle a quand même composé 300 vraies œuvres de qualité, hein, à une époque où elle était condisciple de César Franck, de tous les grands, si vous voulez, de l'époque. Elle était au conservatoire avec Debussy, etc. Tout le monde l'a considérée comme très très bonne professionnellement. Mais il ne se passait rien, si vous voulez, parce que c'était une femme. Alors ça, c'est la première raison, je dirais, sa qualité musicale. Et la deuxième raison, je trouve qu'elle a eu une vie personnelle intéressante, parce que tout en restant dans la correction sociale, religieuse, etc., elle s'est quand même battue toute sa vie pour s'imposer, pour imposer sa musique, si vous voulez, et d'autre part pour pouvoir vivre, on y dira peut-être un mot tout à l'heure, le grand amour de sa vie. Voilà. Donc cet aspect de combat d'une femme pour être, pour exister, m'a paru intéressant, en marge de sa qualité musicale.
Mais dans les sources que vous avez utilisées, il y a aussi sa correspondance.
Oui, on a la famille a gardé un certain nombre. On expliquera probablement plus loin comment elle a été redécouverte, si vous voulez. Mais la famille a eu un rôle là-dedans. C'était important.
Quel était son style de composition? Parce que vous évoquez, elle a travaillé, elle a été formée d'ailleurs par César Franck au conservatoire, elle était condisciple de Debussy. D'ailleurs, elle dit que Debussy était jaloux d'elle au conservatoire. C'est une chose que vous avez pu vérifier?
C'est quelque chose en tout cas qui se disait à l'époque. Voilà,
Quelle musique composait-elle?
Alors, c'est une femme qui est issue de la tradition classique. On va dire que dans la fin du 19e siècle, je vais remonter un petit peu en arrière si vous permettez, parce que c'est important de camper le décor. Il faut savoir que depuis le Second Empire, depuis, on va dire pour simplifier, la moitié du 19e siècle, et malgré la perte que nous avons faite de la guerre de 70-71, que ce soit avant ou après, la France était quand même un des phares de l'Europe dans tous les domaines. Industriel, parce qu'on rattrape petit à petit le retard sur la Grande-Bretagne, financier, parce que nous avions des très grands financiers français, protestants, juifs, etc., musical. Et sur le plan musical, alors que le 17e, 18e siècle, et même la moitié du 19e siècle avait été la grande époque germanique, si vous voulez, la deuxième moitié du 19e siècle et le début du 20e siècle ont été vraiment l'époque de la musique française. C'est une époque post-romantique et post-romantique, et Mel Bonis est exactement là-dedans. Ce qui est à la fois formidable pour ce qu'elle a composé, mais va aussi être une des raisons de sa perte plus tard, de sa chute plus tard, parce qu'elle n'a pas su ou pas voulu suivre les évolutions encore plus modernes qui ont eu lieu après.
Le post-romantisme en musique, on comprend le romantisme, le post-romantisme.
Il n'y a pas de frontière absolue. Mais on l'entend dans les sonorités, si vous voulez.
Vous avez préparé un choix.
Le romantisme français, c'est de la sonorité qui fait la suite normale, j'allais dire, de Schubert et de ces gens-là. Et puis après, on commence à avoir des sonorités un petit peu plus, pas discordantes, mais un peu plus originales, jusqu'au moment où il y a le Sacre du Printemps qui est inauguré au Théâtre des Champs-Élysées dans les années 1910. Et là, c'est vraiment le grand tournant des nouvelles musiques.
Qu'elle n'a pas pris, qu'elle n'a pas voulu prendre.
Elle trouvait que c'était trop bruyant, c'était trop discordant.
Nous allons bien sûr l'évoquer, vous l'évoquez dans cette biographie, Alain de Savigny, Mel Bonis, Un cœur en musique, Éric Bonnier. Alors une biographie en jeu, comme vous aimez bien les faire.
Ah, moi j'adore ça, je trouve que c'est bien que les gens se présentent eux-mêmes et puissent faire part de leurs réflexions, de leurs sentiments, de ce genre de choses. Alors, il ne faut pas non plus en rajouter trop, c'est quand même pas l'auteur qui se raconte, c'est quand même une biographie sur une personne, mais à travers tout ce qu'on a trouvé comme documents, témoignages et tout, on peut se faire une idée du tempérament de la personne.
Alors, Mel Bonis, ce n'est pas son vrai prénom en tout cas.
Elle s'appelait Mélanie Bonis, et elle a dû masculiniser, comme elle a dit, son prénom, parce qu'aucun compositeur ou éditeur de partition, aucun organisateur de concert ou éditeur de partition n'avait pas envie d'une femme sur les affiches. Il fallait un nom qui soit un peu masculin. Donc elle a remplacé Mélanie par Mel, et elle trouvait que Mel Bonis, ça faisait plus masculin et peut-être voire même un petit peu américain. Voilà.
Alors vous proposez d'ailleurs, c'est l'un des intérêts de votre ouvrage, un certain nombre de photos.
Oui, je mets toujours j'ai la chance d'avoir un éditeur avec lequel je travaille depuis 20 ans et on s'entend bien, il est ouvert à des suggestions, on choisit ensemble des belles couvertures. Depuis que ce livre est sorti, ce qui fait un mois, j'ai énormément de témoignages sur la couverture, par exemple.
Oui, c'est un très beau tableau.
Oui, très beau tableau. Presque toujours, je propose à mon éditeur des tableaux qui ont un rapport avec l'intérieur du livre. Et puis par ailleurs, il est d'accord pour mettre un cahier de 10 ou 12 pages, un cahier photo, ce qui permet un peu de visionniser les choses. Alors évidemment, ce sont des photos en noir et blanc à l'époque, hein, c'est dans les années 1900, mais c'est quand même très vivant.
Il y a une belle peinture, d'ailleurs, à vous en présenter, la photo en noir et blanc de Charles-Auguste Corbineau, qui représente Mel Bonis à 27 ans.
Ouais.
Vous expliquez d'ailleurs que c'était une belle femme. Et effectivement, ça, elle, alors une peinture peut embellir naturellement. Hein,
c'est... Bien sûr.
Mais c'était une belle femme.
Sauf que, pardonnez-moi, à l'époque, on avait déjà la photographie, donc on pouvait comparer les photos et la peinture.
En effet, oui. Mais la première photo que vous présentez, en effet, c'est Mel Bonis au conservatoire.
Ah oui, elle est toute jeune.
Oui. Mmh. Oui, oui. Et puis après, effectivement, un certain nombre de photos tout au long de sa vie. La peinture en couverture, c'est...
Bah, c'est
de qui est-elle?
Comme de, toujours, on le marque au dos de la main.
Oui.
Et donc, c'est un tableau de Théodore Clément Steele, c'était donc un Anglais, de 1893, donc on est en plein dans l'époque.
Oui, femme brune jouant du piano, elle était brune en plus,
ouais.
Était une superbe joueuse de piano. Je vous propose que nous rentrions dans cette histoire,
volontiers,
si vous le voulez bien, en commençant tout naturellement par le début, par sa famille, par ses parents, et son milieu.
Oui. Alors, son milieu très rapidement, effectivement, c'est important, je campe toujours le décor au début de mes livres, parce que c'est quand même ce qui fabrique la personnalité de quelqu'un, en partie. Son père, ses deux parents étaient des gens d'origine extrêmement modeste, mais son père a eu deux caractéristiques. Il a passé sa vie à s'élever par son travail et sa qualité, et dans son esprit, la deuxième caractéristique, c'est qu'il n'y avait qu'un seul objectif pour lui, c'était de devenir un bourgeois et de marier ses filles dans la bourgeoisie. C'était comme ça. Alors, il travaillait d'abord comme simple horloger, puis après il a été horloger mécanicien, puis horloger électricien, et puis etc. Il travaillait dans une grande société qui s'appelait Breguet à l'époque, qui faisait à la fois des montres et des avions. C'est comme ça. Et donc, il a pu, par cette progression, dans un premier temps, gagner un peu d'argent et pouvoir déménager, et dans un deuxième temps... s'élever dans la société et pouvoir caser ses filles. Sa mère, c'était un autre personnage, c'était une femme tout à fait travailleuse, normale, d'un milieu modeste. Elle était ce qu'on appelait passementière, c'est-à-dire qu'elle faisait tout un tas de falbala pour accompagner les tissus, on va dire. Mais en particulier, il y avait quelque chose qu'elle savait très bien faire, c'était enrober un fil de cuivre, par exemple, de fil naturel. Et à ce moment-là, il y avait un développement de l'électricité dans les marchés, et son mari qui travaillait dans l'électricité à ce moment-là, et elle qui faisait ça, se sont dit, nous allons faire une petite entreprise où on va faire tout simplement des câbles en prenant des fils de cuivre, et les entourant de tout un tas de choses, etc. Et je ne dirais pas qu'ils ont fait une immense fortune, mais ça a très bien marché. Donc c'est une femme qui était tout à fait modeste, mais qui est devenue une mini-chef d'entreprise. Donc vous voyez, les deux se sont élevés en même temps parallèlement. Et cette femme avait une deuxième caractéristique qui a énormément marqué Mel Bonis et sa sœur. C'est que c'était une dame qui était hyper religieuse, je dirais presque trop religieuse, mais c'était comme ça. Hein. Et elle a vraiment insufflé cet esprit à Mel Bonis et à l'autre fille. Et Mel Bonis, toute sa vie, a eu ce rapport à Dieu qui était à la fois une consolation et une punition. C'était très intéressant, et j'en parle tout le long du livre, on voit que ça accompagne l'histoire.
On sent que, finalement, la religion, c'est très important pour
elle. Donc, en résumé, une famille d'origine modeste qui s'est élevée par son travail, qui avait des valeurs morales importantes pour le mari et une valeur religieuse importante pour la mère, voilà.
Et les deux vont peser, vraiment, nous allons voir dans la vie, en effet, le destin de Mel Bonis. Un aspect aussi que vous soulignez, c'est le manque de tendresse de sa mère.
Parce que pour sa mère, il n'y avait pas besoin de tendresse. Dieu était là pour tout. Mmh. Et donc, la tendresse faisait partie de la religion. Et elle dit quelque part dans un document que sa mère ne lui a jamais dit un mot d'affection, jamais.
L'intérêt aussi de votre ouvrage, Alain de Savigny, c'est que vous soulignez, dans la naissance d'une vocation, l'importance des rencontres. Comment naît la vocation
c'est
de
important.
Mélanie Bonis?
C'est important et c'est souvent...
Rappelons, pardon, excusez-moi, il faut le dire quand même, parce qu'elle est née le 21 janvier 1858.
58,
oui. En effet, situer cette histoire...
58, donc je vous ai dit, c'était vraiment depuis le début. On est sur la deuxième moitié du 19e siècle. Et par et la après, suite, évidemment, au début du 20e siècle. Oui. Alors, sa vocation, comme souvent d'ailleurs... moi, j'ai eu moi-même, quand j'étais jeune, une vocation que vous connaissez. C'est quelque chose
on
qui...
On peut le dire, vous êtes Saint-Cyrien, et quand on regarde votre parcours, on dit que vraiment Saint-Cyr mène à tout.
Non, mais moi, je ne veux pas vous raconter ma vie ça, par rapport avec le livre, mais enfin, j'ai fait plusieurs grandes écoles, et j'ai commencé par Saint-Cyr. Après, j'ai fait HEC et d'autres choses. Bon, et alors, quand vous avez une vocation, très souvent, ça part très jeune, soit parce que c'est quelque chose qui est dans la famille, soit parce que vous tombez sur un objet, une idée ou quelque chose. Elle est tombée sur un piano, très jeune. Il se trouve que parce que pour faire bourgeois, son père avait mis un piano dans leur salon.
À quoi ça tient? Une vocation.
Et donc elle a commencé à taper avec deux doigts, puis avec dix doigts, enfin tout ce qu'il fallait. Et puis, jusqu'au jour, elle a commencé à faire des petites mélodies, etc. Et si vous souhaitez, on peut embrayer d'ailleurs sur la suite comment c'est venu. C'est qu'un jour, elle devait avoir, je ne sais plus, une douzaine d'années, des amis de la bonne bourgeoisie déjeunaient chez ses parents. Et puis, elle s'entraînait dans sa chambre sur son piano.
Pardonnez-moi, mais je trouve que c'est savoureux, Alain de Savigny. Ses parents en avaient assez d'entendre...
Ça leur cassait les oreilles.
Ça leur cassait les oreilles, et donc le piano a été mis dans sa chambre. C'est un détail, mais... Du coup, elle va dans sa chambre, elle joue du piano pendant que les adultes sont dans le salon. Merci.
Pour les parents, c'était un peu une punition de faire ça, mais pour elle, c'était vraiment une bénédiction. Elle avait son piano. Et alors, un jour, des amis de la bonne bourgeoisie déjeunent chez les parents... Et elle s'entraîne dans sa chambre, et tout d'un coup, quelqu'un qui est un mélomane, là, un ami de M. Bonis, lui dit « Mais attendez, je vois que votre épouse s'est absentée, là, c'est elle qui est partie jouer au piano, elle joue tout très agréablement. » Et le père dit « Mais non, ce n'est pas du tout ma femme, c'est ma fille, elle nous casse les oreilles. » Et le mélomane lui dit « Non, mais attendez, elle ne casse pas les oreilles, elle joue tout à fait bien, je vais aller lui demander de me faire une petite démonstration. » Et c'est comme ça que ça a commencé.
Elle a 12 ans.
Elle a 12 ans.
Elle a pris seule, elle a pris par elle-même.
Alors, il lui a dit « Écoute, voilà ce qu'on va faire, Valérie, au père, cher ami, si vous permettez, je vais donner des conseils à votre fille, et si vous voulez bien l'aider, il faut lui trouver maintenant un professeur, parce que c'est bien de s'entraîner seul, mais enfin, il y a quand même, comme dans tous les métiers, il y a des trucs, des modes et des choses à savoir. » Et donc, on va faire ça pendant 2 ans, et si vous en êtes d'accord, dans 2 ans, on se retrouve tous ici à un déjeuner, je viendrai avec un de mes amis du conservatoire, et on verra où en est votre fille. Et 2 ans après, elle a refait une démonstration, c'était déjà plus la même chose, c'était devenu déjà professionnel, et l'ami du conservatoire a dit « Attendez, on ne va pas continuer comme ça 107 ans, vous allez encore faire 1 an ou 2 avec votre professeur, et si vous atteignez le bon niveau, moi je vous présente à mon ami César Franck. » Et César Franck l'a reçu, l'a écouté, et lui dit « Mademoiselle, il y a énormément de travail encore, mais si je vous prends, je vous préviens, ça va être le bagne, ça sera 2 heures par jour, tous les jours de la semaine, dimanche compris. » Et quand je vous sentirai prête, je vous présenterai au conservatoire. C'est comme ça qu'a été
cette époque. Elle a 16 ans
à l'époque.
C'est incroyable. Alors il lui dit en effet, il vous reste à acquérir le plus difficile, la sensation, le sentiment et le toucher.
Alors je veux dire que la différence avec tous les grands pianistes qu'on a autour de nous énormément aujourd'hui et qui sont merveilleux, c'est que souvent ils ont tous commencé à 4-5 ans, mais avec des professeurs, tandis qu'elle, elle a fait tout son parcours d'abord seule, puis avec un professeur sympathique, mais pas un grand professionnel, et enfin avec César Franck.
Alors qui était César Franck à l'époque? Quelle
César
était
sa
musique hein.
César Franck, c'est un des plus grands, je vais dire, musiciens français, bien qu'il soit belge d'origine. C'est quelqu'un dont les parents sont venus s'installer à Paris. Il a dû prendre la nationalité française pour pouvoir rentrer au conservatoire. Il y a eu une seule exception à cette époque, d'un étranger admis sans nationalité française, ça a été Offenbach. Mais lui, il a dû devenir français. Bon, il est devenu français. Il a commencé à faire ses études, puis après à faire des concerts, etc. Et puis, à un moment, son père a trouvé que tout ça, la musique professionnelle, c'était pas terrible, professionnelle classique, si vous voulez, c'était pas terrible, et qu'il pouvait beaucoup mieux gagner sa vie. Hein, et il a... Donc, César Franck a eu un début de vie musicale, familiale, compliquée, en raison de sa relation avec son père. Mais petit à petit, il a repris du poil de la bête, et c'est sa personnalité qui s'est imposée, il s'est carrément séparé de son père, et... À ce moment-là, il est devenu l'immense musicien, à la fois pianiste, organiste, ce qui est important pour Melbonis, et puis compositeur. Et c'est de cette époque-là un des plus grands compositeurs français.
Pourquoi était-ce important pour Melbonis?
Il semblerait que tous ces... Il n'y a pas que Melbonis, il y a eu d'autres femmes à cette époque-là aussi. Beaucoup de tous ces gens avaient envie de faire de l'orgue, parce qu'il semblerait que ce soit une façon de, comment dire, d'améliorer leur connaissance s'ils veulent devenir compositeurs ou compositrices. Voyez, si on veut juste être pianiste, on reste dans le piano. Mais si on veut élargir sa palette, il semblerait, moi je ne suis pas moi-même musicien, mais il semblerait que l'orgue soit quelque chose d'important. Et César Franck était un immense organiste.
Alors, vous lui faites écrire, Melbonis, dans cette biographie, Alain Savigny, Melbonis, un cœur en musique que vous publiez aux éditions Éric Bonnier, vous lui faites écrire qu'elle se sent un peu l'héritière de César Franck. En quoi se sent-elle l'héritière de César Franck? Comment l'a-t-il marqué? Comment s'est passée cette relation? D'avoir César Franck comme professeur.
C'était absolument inattendu. Moi, j'ai l'impression qu'elle l'a pris un peu comme un père, et lui l'a pris un peu, sinon comme une fille, disons comme une filleule en musique. Mmh. Vraiment. C'est quand même pas par hasard si César Franck l'a présenté au conservatoire en disant à tous ses copains du conservatoire, inutile de lui faire passer le concours, elle est meilleure que ça.
Oui, parce que c'est un trait de caractère, ouais, de Melbonis, ouais, c'est son extrême timidité.
Ouais,
et il l'aurait présenté au concours du conservatoire, elle aurait perdu ses moyens, elle n'aurait pas été reçue.
Elle n'aurait peut-être pas réussi.
Il a fait, c'est extraordinaire.
Elle avait un trac pas possible.
Oui.
Pas possible.
En quelle année rentre-t-elle au conservatoire? Donc, c'est le conservatoire de Paris. Hein.
Oui, c'est le conservatoire national de Paris. En deux secondes, le conservatoire national de Paris, parce que j'aime bien, à l'occasion de mes livres, je suis quand même historien, de rappeler un certain nombre de choses qui campent un peu le décor.
Oui.
Le conservatoire national de Paris a été issu, pendant la Révolution française, de la fusion de deux écoles qui existaient, l'une de musique et l'autre d'harmonie, si vous voulez. Harmonie, vous savez, les harmonies municipales avec des cuivres, etc. Donc c'était dans les années, je ne sais plus la date exacte, mais on va dire 1795. Et puis, petit à petit, ça a continué. Alors, les femmes pouvaient être admises dans certaines parties, mais pas partout. Et elles n'ont commencé à être admises d'abord au violon puis au piano que 20 ou 30 ans plus tard. Et le conservatoire était très réputé de l'Europe, et même des États-Unis. Les étrangers venaient volontiers au conservatoire national. Pour le conservatoire, il fallait choisir évidemment des spécialités. Donc, elle a choisi, avec l'aide de César Franck, qui l'a mis dans les mains d'amis, si vous voulez, professeurs, elle a choisi un certain nombre de spécialités. Mais c'était quand même des spécialités assez techniques, soit d'harmonie, soit de composition, soit de choses comme ça. Et puis, on sentait qu'elle voulait aller sur quelque chose de plus coopératif, c'est-à-dire pouvoir travailler avec quelqu'un sur des sujets particuliers, ce qui va nous amener à un autre sujet,
oui,
après.
Pour la suite. Et est-ce que c'est César Franck qui lui dit que, rappelez-vous Mélanie, que mon modèle absolu est Bach?
Oui, c'est lui.
C'est bien César Franck qui...
Il le disait volontiers. C'est une phrase qui, pour lui, Bach, c'était vraiment le nec plus ultra de la musique.
Alors nous sommes en 1876.
Ouais. Hein. Alors elle rentre là, elle passe ses années de conservatoire. Et là, bien entendu, au début, c'est uniquement technique, puis de plus en plus, après, au fur et à mesure, vous avez d'abord des petits engagements à l'extérieur, et puis vous avez surtout des coopérations avec des copains et copines du conservatoire. Ça, c'est important, on s'enrichit mutuellement, on se donne des coups de main. Un jour, quelqu'un qui était dans les classes de chant vient le voir, il s'appelait Amédée Etich, vient la voir en disant « J'ai entendu dire que vous êtes formidablement une formidable accompagnatrice », ce qui est très important, les accompagnateurs. Et moi, je suis poète, plus que musicien, je suis dans la classe de chant, mais est-ce que ça serait possible qu'on puisse commencer à avoir, à mettre ensemble en musique des poèmes que j'ai écrits ? Et elle lui dit « Banco ». C'est vrai.
Alors, pour bien comprendre la personnalité de Maëlle Bonis, en effet, il y a cette rencontre déterminante marquant ta vie.
Ouais. Pour la vie.
Pour la vie.
On va en parler.
Et c'est même pas à vie, c'est pour la vie, en effet, avec Amédée Louis Etich, qui est aussi au conservatoire. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous la mettez en scène, bien sûr, hein,
ouais,
Maëlle Bonis,
bien sûr.
Et vous lui faites dire, pour lutter contre la timidité, cette timidité presque maladive, je multiplie les contacts avec les hommes. C'est extraordinaire.
Ouais,
comme,
c'est bien.
Elle a comme ça des actions qui vont au-delà de sa personnalité.
De même, c'est intéressant ce que vous rappelez, parce que même plus loin dans le livre, on dit que pour progresser encore plus vers l'orchestration, etc., la composition, il faut qu'elle se mette à jouer avec d'autres femmes pour voir comment jouent les femmes et qu'elles ne fassent pas pareil.
Ouais. Et jusqu'à la fin de sa vie, où à la fin de sa vie, en effet, elle n'est plus à la mode, elle voit moins de monde, elle propose toujours des compositions, mais elle s'interroge, que vais-je faire, que dois-je faire ? Et là encore, elle propose une sorte de morale pour rester ce qu'elle est, notamment à travers les rencontres et les correspondances. Mais nous y viendrons. Alors, il y a cette rencontre avec Amédée Etich, donc qui rentre dans sa vie, qui est plus un poète qu'un chanteur, d'ailleurs, qui le deviendra.
Alors, c'est quand même pas un chanteur nul, parce que dans la deuxième partie de sa vie, il viendra le tenant de la chaire de chant au Conservatoire National de Musique. Mais dans les premières années, il n'est pas si bon que ça parce qu'il ne travaille pas assez.
C'est un homme, quoi. C'est un homme dans la jeunesse.
Et en fait, ce qui l'intéresse, c'est la poésie et de mettre en musique ses poèmes.
Cette poésie. Alors, pardonnez-moi, mais cette collaboration qu'il propose, Amélie Moïse, donc, qui suffit à cette rencontre, donc il écrit ses poèmes. Je veux juste, si vous voulez bien, en lire quelques lignes. Lui chante ses poèmes pendant qu'elle l'accompagne au piano.
Exactement.
Sur une mélodie qu'elle a construite.
Sur
c'est sa mélodie
qu'elle fait elle-même.
C'est ça. Elle compose la mélodie qu'il va chanter.
Dans les photos qu'il y a au début, il y a plusieurs photos de partitions où on voit chaque fois poème d'Amédée Etich et mélodie de Maëlle Bonis à chaque fois. C'est vraiment une coopération.
C'est ses premières compositions qu'elle fait pour les poèmes de Louis Etich. Je lis ces quelques lignes de poésie d'Etich. Donc. Voici venir la saison douce où les oiseaux s'en vont par deux, ignorant de ce qui les pousse, mais plus tendre et plus joyeux. Laissez votre âme ouvrir son aile et comme eux, avec le printemps, aimez, vous êtes belle, et l'on ne s'est aimé qu'un temps. Le ciel resplendissait d'étoiles, l'onde à nos pieds mourait sans bruit. Veux-tu, lui disais-je, mignonne, veux-tu, jusqu'à mourir, aimer ici.
On est en plein dans le romantisme.
Ah oui, c'est très romantique. C'est sentimental, on dit, mais ce n'est
alors,
pas...
Alors, on est dans le romantisme, mais vous avez eu une phrase tout à fait intéressante à l'heure en disant « Cette relation qui commence, elle est pour la vie ». Mais c'est une relation pour la vie et pour la mort. C'est-à-dire qu'elle sent petit à petit que, d'abord sur le plan musical, c'est formidable leur coopération, mais que sur le plan personnel, bah forcément, deux jeunes qui travaillent ensemble, qui dans un monde romantique, etc., il peut se passer des choses. Et ça va la conduire à quelque chose de catastrophique. C'est qu'à un moment donné, il va demander la main de Maëlle Bonis à son père.
Oui.
Et que le père refuse.
Nous allons en parler en effet.
Et du coup, le père refuse, demande qu'ils ne se rencontrent pas. Et comme évidemment ils continuent à se rencontrer, il retire sa fille du conservatoire. C'est la catastrophe.
Ah oui,
c'est dans la dernière année de conservatoire avant de passer les Grands Prix.
Je vais vous interroger là-dessus, sur ce refus brutal et les conséquences suite qui l'amènent à quitter le conservatoire. C'est absolument épouvantable, cet épisode de la vie de Mel Bonis que vous racontez. Mmh. Mais on est à ce moment-là, en 1881, septembre 1881, voilà, quand Amédée Hettich va demander sa main à son père, puisqu'en effet, leur relation de travail s'est transformé en relation amoureuse, mais une relation amoureuse durable, qui n'est pas qu'un simple un feu de paille.
À cette époque-là, en tout bien, tout honneur, mais durable.
Oui, c'est ça. C'est ça qui est frappant. Alors, elle a 23 ans lorsque Amédée Hettich la demande en mariage, mais auparavant, elle a déjà fait ce choix de devenir compositrice. Vous écrivez en 1880, à 22 ans, j'ai fait le choix de devenir compositrice, et c'est là qu'elle modifie d'ailleurs son prénom, parce qu'elle est consciente que le fait d'être une femme ne va pas du tout l'aider, bien au contraire, dans la carrière à laquelle elle se destine. Qu'est-ce qui l'amène en fait à ce choix de devenir compositrice? Elle prend goût à ses poèmes qu'elle met en musique?
Elle prend goût, vous avez raison, mais je crois aussi qu'elle a quand même un sacré tempérament, si vous voulez.
C'est ça, oui.
Jouer du piano, c'est bien pour elle, mais elle le maîtrise, piano et orgue, elle maîtrise. Donc elle a vraiment envie de composer et de figurer dans la musique.
Alors que, en effet, vous le soulignez, finalement, il ne sera pas que poète. Amédée Hettich, il fait le choix donc de devenir chanteur d'opéra comique. Qu'est-ce que c'est qu'un chanteur d'opéra comique?
C'est une spécialité. Vous en avez encore aujourd'hui qui passe à l'opéra comique, à Salfavar, qui passe à la télévision, etc.
C'est différent d'opéra?
C'est assez différent d'opéra.
Oui.
Ah ouais.
En quoi?
Je pense peut-être déjà dans le ton de la voix, probablement. Et puis, c'est toujours plus rapide, plus gai, plus... Il y a ce qu'on appelle les cocottes, les gens qui font...
c'est moins sérieux, non?
Donc, c'est... Disons que ça a l'air d'être moins sérieux, mais c'est plus amusant.
C'est plus amusant, oui. Je vous propose, si vous voulez bien, Alain de Savigny, avant d'aborder cette étape décisive de sa vie, et triste d'ailleurs, suite au refus de son père d'accorder sa main à Amédée Hettich, d'écouter une première composition. Et puis en même temps, on écoutera le message de la radio. Vous avez choisi extrait des femmes de légende d'Esdémona, qui est un personnage d'Othello. Pouvez-vous nous commenter ce choix?
C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de pièces qui ont été faites comme ça sur des dames de l'Antiquité, etc. Et la personne dont je parlais tout à l'heure, qui est la présidente de l'association et petite fille de Mel Bonis, qui a mis de l'ordre dans tout ça, elle a fait un peu un catalogue raisonné, si vous voulez. Elle a regroupé 7 ou 8 de ces femmes dans un ensemble qui s'appelle « Femmes de légende ». Donc ce sont des pièces indépendantes qui ont été composées à l'occasion de femmes. Voilà.
D'accord. C'est une version orchestrale, c'est quoi?
Non, c'est du piano.
C'est du piano uniquement, d'accord. Ouais. D'accord. Nous écoutons d'abord le message.
On est dans les débuts, là, c'est du piano. Ouais.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Thank you.
Chers auditeurs de Radio Courtoisie, nous avons le plaisir de recevoir Alain de Savigny, qui est historien pour la publication aux éditions Éric Bonnier de cette biographie à la première personne de Mel Bonis, un cœur en musique. Mel Bonis, un cœur en musique, c'est le titre de cette biographie. Alain de Savigny nous a expliqué le parcours de cet auteur, compositrice d'exception. Cette enfance où rien ne la destine à la musique, elle se forme elle-même sur le piano familial. Et à 12 ans, son talent est découvert par des amis de la famille. Et César Franck, qui l'a pris sous son aile, sa protection, l'a fait rentrer au Conservatoire de Paris, où elle commence à composer et à mettre en musique notamment des poèmes d'Amédée Hettich, qui est la rencontre de sa vie. Elle a 22 ans, Amédée Hettich, qui demande sa main à ses parents et qui vont refuser de manière extrêmement brutale. Alain de Savigny, je vous laisse reprendre.
Oui, merci beaucoup. On peut peut-être effectivement partir de là pour embrayer sur la suite. Donc, Amédée Hettich va présenter ses devoirs aux parents, demande la main de Mélanie, et le père lui dit « Cher monsieur, je vous apprécie beaucoup à titre personnel, je sais que vous êtes un homme courageux parce que pour financer vos études au conservatoire, vous faites des écrits, vous êtes critique littéraire d'art et de musique ici et là, donc moi je respecte tout ça ». Mais malheureusement, j'ai des ambitions plus importantes pour mes deux filles, et notamment pour Mélanie. Et donc, je ne peux pas accepter votre demande d'épouser mon... Enfin, alors, c'est quelque chose... Il le fait avec beaucoup de doigté, de gentillesse et tout, mais c'est quand même un refus brutal, si vous voulez. Hein. Alors là, elle en fait pas une dépression, mais elle s'enferme dans sa chambre, elle ne veut plus voir ses parents, etc. On va faire court. Mais pendant ce temps-là, ses parents se sont dit « il faut vite la marier, il faut trouver un bon parti cette fois-ci ».
Et surtout, ils la sortent du conservatoire.
Alors, ils la sortent, du conservatoire, le père refuse de continuer à financer, donc comme elle n'a pas de moyens, elle est obligée d'arrêter. Donc là, il y a une période de un an ou deux qui est quand même pénible pour elle. Et pendant cette période d'un an ou deux, on lui présente des maris potentiels. Qu'elle, évidemment, évacue les uns après les autres. Et jusqu'au jour où son père vient la trouver en disant « Écoute, jusqu'à présent, je n'ai pas voulu te forcer la main. Je ne veux toujours pas te forcer la main. Mais là, je crois qu'on a honnêtement un bon candidat. » Alors, il lui décrit le personnage en lui disant « Oui, c'est quelqu'un qui est un peu plus âgé que toi. Oui, il a déjà été marié, il est veuf, etc. » Mais c'est quelqu'un qui a une moralité absolue et qui, par ailleurs, a une très belle situation. C'est un self-made man. Et alors, il s'agit d'un Albert Domange qu'elle rencontre. Et là, contre toute attente, je ne dirais pas qu'elle est séduite amoureusement, mais elle est séduite humainement.
Oui, vous écrivez « amoureux » certainement pas, mais un peu séduite.
Voilà. Alors il lui dit « Voilà, mademoiselle, cette situation est pour vous comme pour moi assez abracadabranque parce que j'ai 20 ans de plus que vous et j'ai été deux fois marié, je suis deux fois veuf, donc j'ai déjà 4 ou 5 enfants, je crois que c'était 5 enfants. je vous rassure tout de suite, j'ai un grand appartement avec beaucoup de personnel pour s'occuper de tout ce monde-là. Et par ailleurs, je mettrai à votre disposition tout ce que j'ai. Enfin, il lui décrit, etc. Et moi, je voudrais beaucoup retrouver une femme avec laquelle je puisse fonder une famille, avoir à nouveau des enfants, les chérir, etc. Donc, il a envie. Alors, elle réfléchit beaucoup. Elle reparle avec son père. Et elle conclut en lui disant « Finalement, puisque je ne peux pas avoir l'amour, au moins j'aurai l'argent. » Alors, ce n'est pas une réaction très sympathique, mais c'est quelque chose qui lui permettait de se caser, si vous voulez, dans l'esprit de sa famille. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, il y a le mariage qui se passe normalement.
En 1883.
Et après, elle fait connaissance. Alors, le problème, c'est qu'elle fait connaissance avec des enfants. Elle a à l'époque dans les 25 ans, on va dire, mais déjà les enfants aînés du premier mariage ont déjà 17 ans, si vous voulez. Donc c'est des situations assez délicates. Hein. C'est toujours délicat pour une femme de rentrer dans une famille et en disant, bah, écoutez, je suis là pour vous aider, mais je ne suis pas là pour remplacer votre mère. Enfin, ça.
Comment se fait-elle accepter? Parce qu'elle va se faire accepter. Hein, par,
tout dépend. Alors là, on est, nous connaissons très bien depuis plusieurs années, je vais vous dire une chose très personnelle, je ne sais pas si ça intéressera. J'ai moi-même eu une première épouse qui est morte il y a 40 ans. Et quelques années après, j'ai retrouvé celle qui est ma seconde épouse aujourd'hui. Elle a été exactement dans la même situation, puisque j'avais 3 enfants qui avaient respectivement quelque chose comme 17 ans, 15 ans et 12 ans. Et ça s'est très bien passé, parce qu'elle a été formidable, mais c'est aussi un peu un coup de chance. Bon, je me suis bien impliqué pour que ça se passe bien, mais c'est aussi un coup de chance, parce que je m'étais renseigné auprès d'amis veuf ou divorcé, qui s'était remarié, et dans les 3/4 des cas, ça se passait mal entre les enfants du premier mariage et la nouvelle belle-mère. De la faute des enfants qui en font baver la belle-mère, presque toujours. Et là, on est chez Melbonis exactement dans ce cas-là. C'est-à-dire qu'elle arrive, elle a 25 ans, elle a des beaux enfants qui ne sont pas tout à fait aussi vieux qu'elle, mais enfin, il y en a des plus jeunes, mais il y en a aussi des plus vieux, et elle ne s'impose pas. Elle est là, elle rentre là-dedans et elle devient leur belle-mère chérie. C'est vraiment exactement cette situation que j'ai connue moi-même. Et je trouve ça assez émouvant, si vous voulez. On verra plus tard qu'avec son mari, elle fera 3 enfants. Tout ce monde-là vivra harmonieusement ensemble et tout se passe bien. Alors, je ne vais pas trop m'étendre sur la partie enfant, mais par contre, il faut s'étendre sur la partie Melbonis, ouais. C'est-à-dire que là, elle rentre vraiment dans une période de femme mariée, et de femme mariée de la bonne bourgeoisie. Mmh. Et ils habitent un grand appartement dans le 11e arrondissement, au-dessus de l'usine de son mari, hein, au-dessus ou à côté, boulevard Voltaire, et lui avait repris une petite entreprise qu'il a développée de façon absolument fantastique, en profitant des expositions universelles de l'époque, du boom de l'industrie et de ce genre de choses. Et c'est quelqu'un qui avait, qui pouvait lui offrir une vie extraordinairement confortable, et il n'attendait d'elle qu'une chose, c'est qu'elle tienne sa maison, s'occupe de ses enfants et assure leur vie mondaine. C'était ça qu'il voulait. Ouais. Et lui est devenu était un très bon mari, aimant et tout. Mais elle, malheureusement, n'arrivait pas à l'aimer. Elle le respectait, elle trouvait que c'était un mari formidable, qu'elle avait une vie extrêmement agréable, qu'avec les enfants ça se passait bien, mais elle n'aimait pas son mari. Et elle disait « je ne peux pas me forcer à l'aimer ». Vous voyez, donc c'est une situation qui n'est pas évidente sur le plan humain. Et ça aura des conséquences, on le verra plus tard.
Et elle ressent malgré tout un manque, une frustration dans cette période de mère de famille, parce qu'en plus, trois enfants, hein, qui, à partir de 1884, elle ressent un manque, c'est la musique.
Alors, elle ressent deux manques, si vous permettez. Le premier, c'est la musique, en effet, parce qu'elle est tellement prise par tout ça que c'est une grosse maison à tenir, hein. Beaucoup de travail, beaucoup d'affection, beaucoup de tout ce qu'on voudra, ou d'attention. Et la deuxième chose qu'elle ressent, c'est l'absence de religion de son mari. Car je vous rappelle que nous avons dit au début que toute sa vie a été sous-tendue par la religion. Et elle, son mari lui laissait une paix totale pour qu'elle puisse jouer du piano et pratiquer sa religion, sauf qu'il n'aimait pas la musique et qu'il n'était pas religieux.
Elle joue du piano, mais elle ne compose pas.
Elle ne compose pas.
Elle joue du piano. Elle continue à pratiquer tous les jours.
Vous avez vu, on a dit qu'elle s'est mariée en 1883.
Oui.
Sa première grande période de composition ne va commencer qu'en 1890.
Donc il va se passer 7 ans avant
Non, vraiment, là c'est sa période de mère de famille, et on peut le comprendre, c'est un changement de vie important.
Comment va-t-elle reprendre contact avec la musique?
Eh bien, c'est toujours pareil. Alors, elle a deux choses. D'une part, elle garde quand même une relation avec Amédée Etiche, qui pendant ce temps-là avait été vivre sa vie en Italie, etc. Mais à son retour, ils se retrouvent.
Ils se retrouvent, mais par hasard, en fait.
Par hasard,
c'est à l'occasion ça qui est incroyable.
À l'occasion d'un concert. Et il lui dit, bah, j'ai composé d'autres poèmes. Est-ce que vous seriez d'accord, ou tu serais d'accord, je pense que... pour qu'on recommence à travailler comme nous le faisions, mais en tout bien, tout honneur. Et alors, ce qui fut fait, ils ont commencé à travailler ensemble. Et puis, alors, la deuxième occasion de repartir en musique, c'est qu'à l'occasion d'un voyage avec son mari en Espagne, elle enregistre un certain nombre de rythmes espagnols. Et à son retour, pour voir, comme ça, elle participe à un concours et elle a le premier prix.
Donc elle compose
quelque
gitanes,
chose
hein.
qui s'appelle Les Gitanos,
oui.
qui est une pièce de piano magnifique qui peut être jouée à deux mains ou à quatre mains.
Oui.
Et bon, on n'aura peut-être pas le temps ce soir de l'écouter, mais je conseille aux auditeurs d'écouter sur YouTube Les Gitanos, de préférence à quatre mains, c'est absolument magnifique. Mais c'est très espagnol, très rythmé.
Ah, peut-être que Stéphane va nous trouver ça. Les Gitanos, il va chercher. Et puis, donc il y a, elle a un prix, donc elle est récompensée.
Elle a un prix, et ce qui intéresse plus que le prix, ce qui intéresse plus son mari, c'est qu'elle reçoit une somme. Alors pour lui, l'homme d'affaires, c'est vraiment le mec plus ultra.
C'est ça l'important. Ouais. Et puis aussi, elle va être amenée à remplacer la pianiste qui accompagne justement Amédée Etich.
C'est comme ça qu'elle reprend avec Amédée Etich. Voilà. Alors à cette occasion, il y a quelque chose qui est important à cette époque-là, c'est qu'il change de logement parce que son mari lui dit un jour, ma chérie, moi je suis très heureux avec vous, à l'époque on se voyait encore beaucoup, hein. Je suis très heureux avec vous, et vous êtes une mère de famille et une maîtresse de maison absolument formidable et tout, mais là maintenant nous avons 8 enfants, on commence à être un peu à l'étroit dans notre appartement du boulevard Voltaire. Donc j'ai repéré un hôtel particulier, rue de Monceau, près du parc Monceau, et je trouve qu'en plus, ça correspondrait mieux à notre statut maintenant de la bonne bourgeoisie. Alors, ils font affaire et ils emménagent en 1894. Alors ça, c'est un tournant important, parce que là, ils sont vraiment maintenant dans le top parisien.
Oui.
Bon, alors, cette époque-là, donc, c'est une époque de première composition, 1890 à 1891. Elle a eu trois grandes époques de composition.
Oui.
Donc ça, c'est la première, où d'une part, comme vous l'avez souligné, elle reprend avec Amédée Etich, mais elle fait quand même pour elle-même un certain nombre de compositions. Elle obtient un premier prix de la Société des compositeurs. Voilà, bon. Donc là, on est... C'est pas encore la grande époque de composition, mais on est déjà reparti dans la musique. Elle considère qu'elle a fait son devoir et son métier de mère de famille, et maintenant elle peut recommencer à se composer.
D'autant que ses relations avec son mari vont évoluer.
Alors, il se passe quand même
quelque
chose. Ils
vont lui donner une grande liberté.
Il y a deux petites choses dans ce domaine-là, l'évolution. C'est que d'une part, elle apprend que son mari la trompe allègrement. Ça, je pense qu'il l'a peut-être fait toute sa vie. C'est un type qui ne pouvait pas vivre sans femme. Ça. Et il lui avait dit, d'ailleurs, dès le début, je suis assez porté sur la chose.
Oui.
Bon. Mais surtout, à force de retrouver sa collaboration, sinon quotidienne, du moins hebdomadaire, avec Amédée Etich, eh bien, forcément, les sentiments remontent à la surface, et à ce moment-là, ils deviennent de plus en plus proches, et ils viennent tellement proches qu'elle finit par céder. Et donc, elle finit par céder en 1898, et malheureusement pour elle, mais c'est comme ça, en 1899, naît Madeleine, c'est-à-dire un enfant hors mariage. Alors ça pose un vrai problème, parce que quand vous êtes dans le top de la société sociale, même si c'était peut-être fréquent chez certains, c'est quand même pas bon, si vous voulez, surtout avec son arrière-plan religieux. C'est très important. Donc cet enfant est confié à un ménage charmant qui avait été domestique chez eux quelques années avant.
Elle réussit à cacher d'ailleurs sa grossesse.
Alors elle a caché sa grossesse toute sa vie. Elle a été soi-disant se reposer en Suisse ou en Italie dans la montagne, ce genre de choses. Et puis l'accouchement a eu lieu tout à fait... clandestinement, hein, avec un grand professeur de médecine, mais quand même. Hein. Et puis l'enfant a été immédiatement confié par les deux parents, Amédée Tiche et Mélanie Bonis, à ce ménage qui habitait Neuilly, qui étaient des retraités, qui étaient ravis de s'occuper d'un petit enfant.
Alors c'est un tournant, hein, cet enfant en 1900, c'est aussi un tournant dans la carrière de compositrice de Mel Bonis. Alors je vous propose une petite pause musicale pour justement évoquer ce tournant. Alors nous avons le choix, parce que Stéphane
il a fait son travail.
Bien travaillé en effet. Ouais. Soit nous écoutons Les Gitanos que vous avez évoqué, ce premier prix, opus 15 numéro 1.
À quatre mains il l'a.
À demain.
Ah, il l'a demain. Bon,
soit le cantique de Jean Racine, mais on peut écouter d'abord les Gitanos et puis après le cantique de Jean Racine qui est quand même.
En mettant déjà les Gitanos.
Oh, essayons. Voilà. Nous, on écoute donc ces fameuses.
C'est assez Gitanos. Court comme pièce.
De Savigny, l'année 1900, la naissance de Madeleine, c'est le début d'une étape très importante dans la vie de compositrice de Mel Bonis.
Alors, donc ce tournant avec cet enfant est quelque chose qui est effectivement à la fois la crucifiée sur le plan religieux, sur le plan social et tout, mais à la fois lui a donné beaucoup de joie parce que c'était la concrétisation de l'amour de sa vie, de toute leur vie, avec Amédée et Tiche. C'était difficile à gérer, parce qu'il fallait faire attention à ce que tout le qu'on dira-t-on ne soit pas plus fort que le fond. Et à ce moment-là, ils ont utilisé la fiction que elle et Amédée Tiche étaient le parrain et la marraine de cette enfance qui leur permettait de l'avoir régulièrement. Donc cet enfant a été élevé par des parents dont l'enfant pensait que c'était ses parents, et puis avec un parrain, une marraine, etc. Cet aspect des choses, elle était libérée de son mari avec lequel elle ne voulait plus faire chambre commune. Elle était libérée des enfants qui avaient grandi. Donc en fait, elle s'est trouvée beaucoup plus disponible pour entrer dans sa deuxième période, qui a été sa grande période de composition musicale. Et c'est là où elle a composé, on ne va pas faire long, mais des nombreuses sonates pour, ou suites pour piano, flûte, violon, violoncelle, clarinette, harpe. Et d'autre part, son fameux quatuor en si bémol, en 1905. Elle a obtenu un certain nombre de prix, et surtout, elle a été nommée, c'était la concrétisation de son état de femme dans un monde d'hommes, elle a été nommée secrétaire de la Société des compositrices. Des compositeurs. Alors ça, pour elle, c'était le nec plus ultra, c'était le top. Elle était devenue l'égale de tous les gens qu'on peut citer, César Franck, Gabriel Fauré, Claude Debussy, Maurice Ravel et d'autres.
Elle compose aussi des pièces pour orgue.
Ouais.
C'est une...
Elle composait pour énormément d'instruments. Alors, composé pour beaucoup d'instruments, c'était souvent piano et violon, piano et flûte, piano, violoncelle, etc. Elle s'est dit, il faut que je franchisse un cran et que je fasse plus de compositions globales. Donc, composition globale, c'est de la musique symphonique, ou ça peut dire de la musique de chambre, si vous voulez. Et pour ça, il lui manquait quand même quelque chose, c'est justement vraiment d'approfondir les problèmes de composition. Et là, elle a suivi pendant longtemps l'enseignement de quelqu'un qui s'appelle Koechlin, ou Koechlin, je ne sais pas comment on prononce, qui était un polytechnicien qui savait tout faire. Il était bon en mathématiques, en musique, en techniques de toutes sortes, etc. Il savait tout. Et il a écrit une bible, un ouvrage qui est en 6 volumes, qui est devenu une bible de la composition pour tous ces gens-là. Et donc, elle a suivi tous ses cours, et c'est ce qui lui a permis de faire son quatuor à si bémol, de faire de la musique de chambre, etc. Et donc cette période de, on va dire, 1900-1914, a été la grande période de composition de sa vie, reconnue pas simplement par des œuvres et des prix, mais par le fait qu'elle ait été nommée secrétaire générale de la Société des compositeurs.
Et les grands compositeurs de l'époque la reconnaissent comme leur père ?
Ouais, les grands compositeurs la reconnaissaient comme compositrice, mais, à virgule, c'était une femme. Chaque fois, il y avait un commentaire. Ravel a dit, en écoutant son quatuor en si bémol, « Ah, c'est absolument merveilleux comme musique. Je ne pensais pas qu'une femme pourrait écrire ça. » Oui. C'était toujours « oui, mais hein. ». Oui. Donc, c'est important. Donc, c'est à la fois enthousiasmant comme époque, mais toujours un peu désespérant parce que femme. Mm. Vous voyez. Bon, alors, cette période se finit par la guerre de 14-18, là où il ne se passe pas grand-chose pour personne. Cette époque est aussi marquée par le décès de son mari en 1918, c'est quand même un événement important. Et elle en a été fort attristée, parce que finalement, ils avaient trouvé un modus vivendi. Mmh. Le mari savait que sa femme ne l'aimerait pas, ne l'aimerait jamais, mais c'était un bon ménage. Je vous rappelle que dans un livre où vous m'avez interviewé, Inès de Bourgoin-Maréchal lui ôtait.
Oui.
Ça a été pareil. Là, à 50 et quelques années, elle-même étant veuve à 40 ans, Inès de Bourgoin, le maréchal lui ôtait, enfin, qui était général encore à l'époque, lui a proposé de l'épouser contre toute attente parce qu'on savait qu'il préférait les petits lieutenants aux dames. Vous voyez ? Mais il avait pensé qu'il fallait faire un couple posé, assis, social, etc. Et ça a été un couple merveilleux pendant 25 ans. Eh bien, Melbonis et son mari Domange ont été un très bon couple vis-à-vis de l'extérieur. Et pour leurs enfants.
Et sur la guerre de 14-18, il y a quand même une anecdote qui est émouvante. Hein. C'est que, vous savez, l'église de Saint-Gervais a été bombardée par un obus allemand, sans doute la grosse Bertha. Et il y avait sa fille, Madeleine, sa filleule,
absolument.
Et fille cachée, Madeleine, qui était la seule survivante sur 91 morts.
Ouais.
Elle était présente à Saint-Gervais, c'est une
histoire. Il y a un énorme obus allemand qui est tombé sur le toit de cette église, qui est près du Louvre, là. Et la voûte s'est effondrée, tout s'est éteint. C'est un peu l'histoire de Notre-Dame où tout s'est écroulé. Et effectivement, il y a eu plusieurs dizaines de morts. Et elle a été la seule survivante.
Alors, s'ouvre une nouvelle période, la troisième période de composition. La première période, on peut dire 1880-1899. La deuxième, à grandiose, en quelque sorte, 1900-1914.
Ouais.
Puis 1922, après la guerre, en quelque sorte. Je vous propose d'écouter quelques instants quand même
le fameux, cantique.
On l'a promis en introduction, le fameux cantique de Jean Racine.
Allez-y.
Je pense que tous les auditeurs vont le reconnaître. Et puis, je vous rendrai bien sûr la parole à Alain de Savigny pour la dernière période de la vie de compositrice.
Et peut-être, si vous me permettez, sa dernière période sur laquelle on ira un petit peu vite, mais si sur la redécouverte de Mel Bonis.
C'est ça, comment elle faut en parler, en effet.
Comment elle a émergé.
Redécouverte à laquelle vous contribuez, bien entendu, à travers votre livre Alain de Savigny, Mel Bonis, un cœur en musique, aux éditions Éric Bonnier. Nous écoutons donc le cantique de Jean Racine. De Savigny, nous avons un auditeur qui vous fait cette remarque. L'histoire de Mel Bonis fait penser au début de La Princesse de Clèves.
C'est vrai, un peu, oui.
C'est très romantique. Alain de Savigny, donc dernière étape de la vie de Mel Bonis comme compositrice à partir de l'année 1901. Auparavant, il y a son fils qui veut épouser sa fille. Edouard, alors, qui veut épouser Madeleine.
Alors, ce qui se passe, c'est que j'ai expliqué que la fille occulte, qui s'appelait Madeleine, était donc très bien traitée, très bien élevée chez ce couple charmant à Neuilly, qui était la campagne à l'époque, je le rappelle. Et elle venait passer, mais Madeleine venait passer les vacances d'été, de Pâques, etc., ou Noël, dans la famille d'Omanche, c'est-à-dire chez sa marraine. Et donc, pour tous les enfants qui étaient là, c'était une fille peut-être un peu pauvre, que sa, que leur mère et belle-mère avaient pris en affection et prenaient, allaient la voir, prenaient en vacances, etc. Mais c'était quelqu'un hors de la famille, si vous voulez. Et un jour, un des fils de Melbonis vient la voir, la fameuse Édouard, et lui dit « Je suis tombé amoureux de cette jeune fille que vous nous amenez régulièrement. » Catastrophe, parce que cette jeune fille, c'est sa demi-sœur, et il ne le sait pas. Alors pour Melbonis, ça a été absolument inouï, parce que ça veut dire que c'était la fin de l'omerta, c'est-à-dire du secret absolu sur cet amour caché. Vous voyez ? Et il a fallu donc, elle explique d'abord à son fils, puis à Madeleine, puis à d'autres petit à petit, que ben voilà ce qui s'était passé, ce qui pour elle a été absolument un crève-cœur, sur le plan social, sur le plan moral. Donc c'est une histoire à la fois assez belle et assez triste, si vous voulez.
Quel mariage fera Madeleine ?
Quel
mariage fera Madeleine, sa fille Madeleine ?
Ben, elle fera un mariage avec un garçon absolument charmant, elle aura des enfants, elle aura une vie tout à fait normale.
Donc il y a beaucoup de descendants.
Et à partir du moment où elle a reconnu, où elle a appris que cette dame, Mélanie Bonis, était sa mère et que ce monsieur Amédée Etich était son père, ben, elle les a considérés comme ses parents. Et à son mariage, c'est la première fois que les deux familles étaient réunies. Les Etich et les...
Néanmoins, au décès de Melbonis, Madeleine ne figurera pas.
Non, parce qu'elle était toujours considérée quand même comme autre. Et donc voilà. Bon, on est dans la troisième et dernière période là qu'on va faire rapidement. C'est de 1920 à 1934, on va dire. Donc il y a eu le cantique de Jean Racine qu'on vient d'évoquer. Il y a eu de la musique de chambre, la musique spirituelle, le chant et orgue. Mais aussi des œuvres pour enfants, amusantes ou didactiques. Elle a fait un certain nombre de volumes pour apprendre la musique, le piano, le chant, etc. pour les enfants. Elle a écrit un autre quatuor qui s'appelait le quatuor en ré. Au total, elle a fait un certain nombre d'œuvres qui sont de très bonne qualité parce que c'était la fin de tout ce qu'elle avait acquis. Mais en même temps, ce n'était pas sa grande période. Sa grande période de composition, vous l'avez rappelé tout à l'heure, c'est 1900 à 1914, on va dire. Alors, elle vieillit gentiment, elle déménage pour être dans un endroit plus adéquat, et puis elle finit par mourir en 1937 à l'âge de 79 ans. Et là... depuis 1937.
Il nous reste 10 minutes, Alain de Savigny. J'aimerais quand même que vous évoquiez sa situation de compositrice dans l'évolution de la musique après les années 1920. A-t-elle encore sa place ? Comment est-elle considérée par les critiques et notamment les éditeurs ?
Je vais vous répondre par un seul mot, c'est l'absence. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain temps, après 1925, on va dire, elle a du mal à trouver des éditeurs de partitions qui veulent bien prendre ses œuvres. Elle n'arrive plus à faire jouer ses œuvres dans des concerts ou à jouer elle-même. Chaque fois qu'elle se présentait en disant « je voudrais », on me dit « ah, on veut bien vous prendre, mais vous jouez l'œuvre de César Franck, vous jouez l'œuvre de Ravel, vous voyez ».
Mais pourquoi n'est-elle plus considérée ?
Eh bien, parce que sa musique, elle, n'est plus dans l'air du temps. On l'a dit tout à l'heure au début, la musique a évolué, je parle même plus des sérielles, de ceci, de cela. Il y a eu une évolution très rapide de la musique, même avec certains ajouts allant vers du jazz pour certaines choses, ou des bruits un peu insolites, ou des choses comme ça, elle n'était plus du tout dans le coup. Et donc, autant sa grande... disons qu'en gros, entre 1890 et 1920... c'était bien.
Période.
Après, c'était tout ça. Donc, au moment où elle est morte, en dehors du cantique de Jean Racine qui a été fait très peu de temps avant sa mort, franchement, elle n'était plus dans le coup. Et c'est pour ça que j'ai utilisé le mot d'absence.
Et le fait qu'elle ne soit plus jouée, parce que ceux qui ne sont plus non plus dans l'air du temps, mais bon, César Franck était décédé, mais Ravel et Debussy continuent à être joués. Elle n'est plus jouée. Pour quelle raison ? Est-ce que c'est parce que, là encore, c'est une femme ou qu'elle a moins de talent ?
À ce stade, je pense que ce n'est plus une femme, si je puis dire, puisqu'encore une fois, elle avait atteint le grade ultime de secrétaire général, etc. Je pense que c'était vraiment un manque d'évolution. Les ceux que vous avez cités, les Debussy, Ravel ou autres, leur musique a évolué petit à petit.
Mais elle n'évolue plus.
Ça a évolué parce que ça leur faisait plaisir, mais ça a évolué aussi parce que ces gens-là vivaient de leur musique et que c'était un concept inconnu à l'époque, mais ils faisaient du marketing, c'est-à-dire qu'il fallait évoluer avec le monde.
Elle n'a pas voulu
Elle n'a pas voulu.
Elle n'a pas voulu.
Ça ne lui plaisait plus. C'était plus la musique qu'elle voulait faire.
Oui.
Voilà.
En quoi elle avait une forte
Alors
personnalité.
Alors donc, à sa mort, on va dire, ça a été vraiment une rupture. Et à ce moment-là, il y a eu un trou pendant un certain nombre de décennies, jusqu'au jour où, on peut en dire quelques instants,
oui, nous reste
jusqu'au jour où
temps.
Il se trouve que des amateurs musiciens, amateurs allemands, quatuor, un quintet, disons un petit groupe d'amis, qui étaient des très très bons violonistes, violoncellistes, flûtistes, etc., se sont mis à adorer et à découvrir la musique française des années 1900, 1880, à la guerre de 14. Ils ont fait un certain nombre de recherches, ils en ont trouvé en s'adressant à tous les conservatoires, les bibliothèques, etc., musicales du monde, et ils ont commencé à jouer un certain nombre de choses qui ont eu du succès en Allemagne. Et puis un jour, quelqu'un leur a dit, à la Bibliothèque nationale de France ici, vous devriez peut-être prendre contact avec la famille Domange, il paraît qu'ils ont quelques partitions, etc. Et donc ce monsieur Ebrard, qui était l'Allemand en question, grand violoncelliste, pas professionnel, mais très grand violoncelliste, a pris contact avec la famille Domange, et c'est comme ça qu'a commencé le travail en commun entre ces Allemands et cette famille, où il y avait, je vous l'ai dit tout au début, les partitions, des documents et tout un tas de choses, et ont redécouvert les choses et se sont mis à jouer à ce moment-là en Allemagne, en France, en Italie, en Europe, etc. Et puis quelques années plus tard, une fondation italienne qui avait été créée par une dame dont la famille s'était enrichie dans la pharmacie, produits pharmaceutiques, ils ont créé en Italie une fondation pour l'art en général, la culture en général, et notamment la musique française de la fin du 19e et du début du 20e. Ça s'appelle la Fondation Bruzzane, le Palazzo Bruzzane à Venise. Et là, sous la direction d'un homme éminent, a été constituée une équipe de musicologues qui ont produit une Bible importante. Donc il y a déjà eu un livre de redécouverte de Melbonis par la famille avec les Allemands, écrit par la dame dont je parlais tout à l'heure, qui est la présidente de l'association. Puis, quelques années après, un livre, vraiment une Bible de 600 ou 700 pages, énorme, technique et tout, par la Fondation Bruzzane. Et moi, j'ai pensé qu'il manquait maintenant l'ouvrage d'un cran plus loin pour aller vers le grand public, parce que les musicologues, les mélomanes, ça, c'est très bien. Les musiciens, etc., il y en a qui commencent... Moi, j'ai été déjà plusieurs fois à des concerts cette année et l'année dernière avec mon épouse, où nous avons entendu des œuvres de Melbonis. Donc, on recommence à en avoir, et ça se joue aussi bien à New York, à Hong Kong et tout. Mais la seule chose, c'est que ça s'adresse toujours à des spécialistes, c'est-à-dire des musiciens ou des musicologues. Et moi, j'ai pensé qu'il était bon maintenant de faire ce livre pour aller plus vers le grand public, les intéresser par l'œuvre, mais aussi par la vie de Mélanie Bonis.
Que vous réussissez parfaitement, ouais. Alain de Savigny, avec ce livre « Melbonis, un cœur en musique ».
Donc c'est le troisième livre qui est fait sur Melbonis dans ce sens, et en allant chaque fois vers le grand public. Tout le fond, puisque je suis historien de formation, tout le fond est parfaitement historique et musical, mais il y a quand même toute la partie humaine qui, à mon avis, est quand même la moitié de la vie de Melbonis.
Mais qui est parfaitement passionnant, en plus très romantique.
C'est une vie romance,
très romantique. D'autant que ce qui est frappant, vous le racontez dans votre livre, Alain de Savigny, c'est qu'elle meurt, Melbonis décède à Sarcelles dans sa propriété le 18 mars 1937, quelques jours après seulement.
Ouais.
Amédée Tisch, l'homme de sa vie, hein, le père de Madeleine, lui décède à Paris le 6 avril. C'est
quel couple, hein.
Très
quel couple.
Impressionnant. C'est une union totale. que vous décrivez aussi à travers la vie de ces deux personnes. Ouais. Hein, contre vents et marées, ils ont été en totale union depuis l'âge de 20 ans. C'est extrêmement impressionnant. Et j'aimerais vous poser aussi encore une question. Comment expliquez-vous que, justement, pour l'instant, Melbonis soit en faveur auprès de spécialistes uniquement et pas du grand public?
Alors, je pense qu'il y a actuellement un certain nombre de très bons jeunes musiciens, notamment des femmes, beaucoup de femmes. Moi, là, où j'ai, les concerts où j'ai été, c'était souvent des femmes, des violonistes, des pianistes, qui sont passionnées par la redécouverte de femmes, un peu comme je le fais dans mes livres, de femmes de cette époque-là, où, d'une façon générale, les femmes n'avaient pas beaucoup de position officielle, n'avaient pas le droit de dire ou de faire, etc. Et on se rend compte qu'il y en a eu un certain nombre, et notamment les musiciennes depuis le milieu du 19e siècle, en France, il y en a eu un certain nombre de très bonnes qualités. Et ces gens-là sont redécouverts d'abord par les musiciens qui ont envie de les jouer. Et ce n'est qu'après que, par ces musiciens et par des livres comme le mien, le grand public pourra être atteint.
Eh bien, Alain de Chavigny, merci beaucoup d'avoir contribué ainsi à la mémoire de Melbonis comme compositrice, mais aussi comme femme avec une vie impressionnante, émouvante. Ouais. Melbonis, un cœur en musique, c'est ce que vous racontez dans votre livre aux éditions Éric Bonnier. Merci à Stéphane à la technique qui nous a aidés, en effet, à trouver des extraits musicaux de Melbonis, et il nous propose d'ailleurs, après cette émotion, de continuer en musique avec Melbonis par le final de la sonate pour flûte et piano. Merci à Laurent au standard qui a pris vos messages, chers auditeurs de Radio Courtoisie. Merci à vous tous pour votre fidélité. Très bon dimanche soir, et n'oubliez pas que Radio Courtoisie a besoin de votre soutien.
Entendre le Libre Journal des Amitiés Françaises, dirigé par Thierry Delcourt, diffusé en direct sur Radio Courtoisie dimanche 19 avril 2026 de 18h à 21h et réalisé par Stéphane. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros, ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.